Servicio Volontario
International.
Le volontariat n'est pas une marchandise ou du volontourisme.
Voyager, c'est bien, mais s'investir, c'est mieux. Le Service Volontaire International propose des projets de volontariat dans plus de 60 pays tout en restant accessible à tous.
Avec plus de 600 projets dans 60 pays, nous nous chargeons de faire de votre projet un succès pour vous et pour nos partenaires locaux. Plus d'informations sur www.servicevolontaire.org.
Donc voilà, on parlait du Service Volontaire International. Donc je reçois maintenant deux membres de l'ASBL, deux représentants du Service Volontaire International. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le Service Volontaire, donc tout d'abord Pierre, on va vous présenter. Donc Pierre du Service Volontaire International et
Rémi
du Service Volontaire International.
Stagiaire au Service Volontaire International.
Alors, le Service Volontaire International, donc, comme le nom l'indique, c'est un service volontaire et international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, outre le fait que c'est des volontaires qui se passent à l'étranger?
Donc, d'abord, peut-être parler un peu de l'histoire de l'association. Donc, nous, on a une petite particularité, c'est qu'on est d'abord une association qui vient d'un pays du Sud. Donc, on a été créé il y a 5 ans, avec l'aide de la coopération belge et les Nations Unies. Et nous avons mis en place la toute première organisation de volontariat international au Vietnam, et organisation indépendante du Parti communiste. Alors depuis cette année, nous avons décidé d'importer notre savoir-faire qu'on a développé au Vietnam et de venir ici en Belgique le présenter. Donc je pense que le milieu associatif au Vietnam et en Asie en général est assez développé, peut-être parfois même plus qu'ici. Pour donner une idée, en 5 ans, nous avons actuellement 4000 membres locaux et on reçoit 500 volontaires internationaux chaque année sur nos projets. Il n'y a aucune association de volontariat ici en Belgique, de volontariat international qui peut se vanter de tels chiffres. Mmh.
Donc, le volontariat international, en pratique, vous envoyez des gens donc au Vietnam, à l'étranger en tout cas, pour soutenir des projets locaux. Alors, comment est-ce que ça se passe? Tout d'abord, sur votre site internet, déjà, vous mettez une grosse différence, vous faites clairement la différence entre ce que vous appelez le tourisme humanitaire, donc ce qui s'appelle en fait le tourisme humanitaire, et ce que vous faites. Vous finalement. Donc est-ce que vous pouvez d'une part nous expliquer comment est-ce que ça se passe en pratique, comment est-ce que les volontaires sont envoyés, qu'est-ce qu'ils vont faire sur place, et justement en quoi, comment est-ce que ça se démarque de ce tourisme humanitaire?
Oui, donc les chantiers internationaux, ce sont des projets qui durent entre 2 semaines et plusieurs mois. Alors le type de travail, ça peut être par exemple s'occuper d'enfants des rues, par exemple au Vietnam, ça peut être faire le clown dans un hôpital pédiatrique, ça peut être des projets artistiques, ça peut être des projets musicaux, par exemple on a un projet de festival hard rock en Russie, ça peut être un peu de tout, du moins que ça reste dans le cadre associatif. Donc il n'est pas question par exemple de faire les vendanges dans le sud de la France et de prendre le boulot d'un ouvrier agricole. Ce sont uniquement des projets qui n'auraient pas pu exister sans l'aide de volontaires. Donc ce ne sont pas des projets qui sont sélectionnés parce qu'on se dit tiens voilà, on va faire un truc enseignant l'anglais aux enfants, ça va nous attirer des volontaires. Donc déjà cette démarche nous différencie du milieu commercial. Nous, nos projets sont des projets de volontariat dont l'objectif est d'avoir une utilité publique. Les projets de volontariat dans le secteur commercial, ce sont d'abord des projets qui doivent attirer des clients. Donc par exemple, ce qui marche très très bien pour l'instant, c'est les projets va jouer à l'instituteur dans les pays du tiers-monde. Ça, c'est vraiment super. Bon, pour donner un exemple, on a été victime de ce genre de commerce au Vietnam. Ce sont des grossistes qui vont voir, par exemple, des directeurs d'école dans des petits villages. Et puis, ils font une donation, entre guillemets, au directeur. Et ensuite, l'école est livrée à des jeunes touristes qui viennent, par exemple, enseigner le français à des enfants de l'école primaire. Alors, le problème, c'est que ni l'anglais ni le français ne fait partie du cursus à l'école primaire. Pendant que ces touristes jouent avec les enfants, les vrais profs ne travaillent pas, puisqu'on a payé le directeur pour jouer dans l'école. Alors c'est présenté comme une introduction interculturelle, on va ouvrir l'esprit à ces enfants, leur montrer la grandeur du monde et ce genre de choses. Pourquoi pas? Mais deux semaines après, il y a un nouveau quart de touriste qui revient faire « Hello, what's your name ?» Et ça détruit complètement la scolarité de ces enfants. Mmh. Ça peut être, par exemple, aussi un truc qui marche très bien en Asie, c'est les cours de yoga. Alors, donc, nous, on avait rencontré des moines bouddhistes qui ces grossistes étaient venus trouver en disant « Voilà, il y a des jeunes qui s'intéressent au bouddhisme, est-ce que vous êtes prêts à les accueillir ?» Évidemment, ils étaient prêts à les accueillir. Le problème, c'est qu'en Belgique, c'était vendu non pas comme un séjour religieux, mais comme une initiation au yoga. Et c'était ces moines bouddhistes qui logeaient et nourrissaient ces jeunes qui avaient parfois payé jusqu'à 2000 euros pour deux semaines pour aller faire chanter des cantiques bouddhistes sans rien connaître du bouddhisme. Donc c'était le tiers-monde qui payait les vacances à ces jeunes qui eux-mêmes avaient payé une fortune pour aller faire le zouave dans un monastère.
Ok, et peut-être le pire encore dans l'histoire, c'est que c'est ces gens qui vont justement aller donner des cours de français ou quoi, ont l'impression de faire quelque chose de bien pour aider sur place finalement.
Oui, bien sûr, donc les gens qui participent à ce type de projet, souvent ce sont des jeunes qui sont pleins d'idéal, ils veulent voyager, ils veulent rencontrer d'autres jeunes, ils veulent se rendre utiles, éventuellement pratiquer une langue étrangère. Donc des idées un peu qui tournent un peu dans tous les sens. Le rôle du secteur associatif, c'est un peu d'essayer de remettre ces idées dans un certain sens. Non, tu vas pas aller sauver la planète en deux semaines. Non, être prof de français, c'est un vrai métier. Il suffit pas simplement de parler le français. Mais ces sociétés commerciales, au contraire, surfent sur ces envies, les développent pour pousser ces jeunes à partir avec eux.
Finalement, c'est manipuler les gens qui ont de bonnes intentions, quelque part.
Tout à fait. Parce que ces jeunes qui ont payé, parce que nous, on les a vus, quoi. Ces jeunes qui ont payé parfois 2000 euros pour deux semaines, ils arrivent sur place. Parfois, ils ont économisé toute une année pour se payer ce type de voyage. Et puis, ils se rendent compte qu'avec 2000 euros, ils auraient pu faire un voyage de grand luxe dans le pays où ils sont. Et puis, ils se retrouvent dans un projet où le confort est un peu style camp scout. C'est clair qu'on est déçu. Mmh. Alors ces jeunes soit se disent, voilà, je me suis fait arnaquer, il ne faudra plus jamais me parler de volontariat, de secteur associatif, c'est terminé pour moi. Ou pire, ils se disent, ah mais voilà, les projets de développement, c'est facile, on prend son sac à dos, on va dans une école, dans un petit village, on fait Hello, what's your name, et voilà, on a un super projet de développement. Mmh. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça.
Alors justement, comment, de votre côté, comment est-ce que ça se passe? Imaginons, voilà, il y a un jeune qui se présente, qui dit, voilà, je voudrais faire quelque chose pour aider. Qu'est-ce que vous lui répondez? Comment est-ce que vous l'orientez?
Bon, la première chose, c'est on essaye de... Bon, par exemple, nous ne faisons pas de formation Nord-Sud comme d'autres associations. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le volontaire et son projet. Donc, par exemple, un volontaire vient chez nous et cherche parmi nos projets, puis trouve, par exemple, un projet en Thaïlande. On va essayer de s'assurer que ce qu'il a imaginé correspond bien à la réalité. Donc, par exemple, on essaye d'organiser une interview téléphonique avec l'association pour être sûr que ce qu'il a lu, ce qu'il a compris correspond bien à la réalité, pour être sûr que ça va coller aussi entre les personnes, parce que du volontariat, c'est pas simplement du travail, mais c'est aussi des personnes qui travaillent avec d'autres personnes. Et on essaye de trouver des volontaires qui sont déjà partis pour cette association, avec qui il va pouvoir avoir un autre feedback. Mmh. Mais je dirais la partie la plus importante pour le choix d'un projet de volontariat, c'est vraiment bien purifier ses intentions, être sûr que c'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc ne pas, par exemple, mélanger tourisme et volontariat. Faire l'un et puis l'autre, d'accord, mais vouloir faire les deux en même temps, c'est rarement une très bonne idée, par exemple. Il y a aussi beaucoup d'idées, il faut aussi un peu, parfois, revenir les pieds sur terre. On ne va pas sauver le tiers-monde, par exemple, en deux semaines. Et bien, par exemple, dans notre cas au Vietnam, en fait, on n'a absolument pas besoin de volontaires, dans le sens technique. On a 4000 membres, la plupart sont universitaires. Donc, un Belge qui viendrait au Vietnam en disant, voilà, je vais leur apporter un tas de trucs, non, on n'a absolument pas besoin de conseils techniques. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le volontaire, sa personnalité, sa motivation. Donc, par exemple, dans notre maison de jeunes, on a toute une série de volontaires qui donnent des cours après leur propre cours. C'est assez demandeur. Mais le fait qu'on a des volontaires étrangers qui viennent parfois que de semaines, ça nous permet de continuer à motiver nos propres volontaires, parce que tous les jours, il se passe quelque chose, un nouveau problème, nouvelles idées, des fêtes, et donc le mélange de volontariat local et international est vraiment intéressant. Ça nous permet aussi de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire rien qu'avec des volontaires locaux. Donc par exemple, on reçoit régulièrement des volontaires japonais, mais voilà, par exemple, on peut faire des ateliers origami avec les enfants, qu'on n'aurait pas pu faire rien qu'avec des volontaires locaux. Un Belge qui vient au Vietnam, par exemple, il peut, je sais pas moi, faire un repas moule frites, par exemple. Voilà, c'est un truc un peu spécial qui est amusant de parler de sa culture. Tout ça, ce sont des choses qui nous intéressent. Par exemple, on reçoit aussi pas mal de stagiaires, par exemple des stagiaires en pédagogie, et un futur instituteur finlandais et un instituteur japonais ont certes une base commune, mais ils ont des petites choses différentes. Et ça nous intéresse de pouvoir prendre à gauche et à droite différentes techniques et d'en faire quelque chose qui nous est propre.
Justement, vous parliez de l'échange, donc il ne s'agit pas simplement d'envoyer des jeunes à l'étranger ou pour un projet ou pour un autre, vous recevez aussi des gens. Oui. D'ailleurs, à ce propos, vous avez quelque chose prochainement, très prochainement même, qui est organisé. De quoi s'agit-il?
Oui, on a plusieurs choses. Donc une première chose, c'est qu'on a aussi nos projets de volontariat ici en Belgique. Donc c'est pas simplement des Belges qui parlent l'étranger, mais on a aussi toute une série de Belges, y compris des volontaires étrangers qui viennent en Belgique faire du volontariat. Donc c'est important que ça se passe dans les deux sens. Et on a aussi une pièce de théâtre, mais je pense que Rémi pourra...
Oui. Alors Rémi, justement, donc, tu es stagiaire, c'est bien ça, ouais. Pour le service volontaire international. Et donc tu t'occupes de ce dont tu vas nous parler, là, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc, okay. C'est-à-dire que pour le service volontaire international, on essaye de diffuser notre information par tous les moyens possibles, radio étudiante, que ce soit aussi par de l'affichage ou l'information sur les campus universitaires. Et ce qu'on fait aussi, bah, ici, on s'est lancé dans l'organisation d'une soirée à vocation culturelle, c'est-à-dire qu'on organise une pièce de théâtre dans les bâtiments du Woningen 123 Logement, qui est une SBL bruxelloise, qui essaye de trouver fait des alternatives à la crise du logement. C'est-à-dire que, par exemple, les étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer un cot, ou tout simplement les personnes qui n'ont pas les moyens de payer un logement, peuvent se retrouver dans ce squat, qui est un squat légal, c'est-à-dire qu'ils ont un bail pour 6 ans, quelque chose comme ça, je pense. Et ils organisent toute une série d'activités régulièrement dans leur bâtiment, dans le but, un petit peu subversif, mais souvent dans le but de montrer qu'il y a moyen de faire des choses, même quand on est un peu en recul par rapport à la société. Et ce qu'on organise dans leur bâtiment, c'est en fait une pièce de théâtre avec la troupe du Théâtre du Copion de Beaudour, qui va venir nous présenter une pièce qui s'appelle « Sans ça », c'est-à-dire une pièce qui parle des sans-emploi, des sans-abri, des sans-logement, des sans-famille aussi, des sans-amour, des sans-affection, etc. Bref, les gens qui sont parfois trop rejetés dans la société, et ce qui se passe, c'est qu'après cette pièce de théâtre aura lieu tout un débat autour de ça, donc c'est du théâtre-action en fait, ils vont ouvrir le débat avec les personnes, et donc si vous êtes intéressé par un chantier international, nous serons sur place pour vous renseigner. Voilà, c'est ce dimanche 9 mai, c'est gratuit, et la pièce est précédée d'une arpa populaire au fait, qui commence à 19h. Voilà.
Voilà, et c'est tout à fait gratuit, et le repas est à prix libre.
Ok. Peut-être si vous voulez ajouter quelque chose, déjà le site internet, oui, j'allais oublier, je m'excuse. Donc toutes les informations.
Mm-hmm. Voilà, donc Pierre.
Donc on a un superbe site web, donc servicesvolontaires.org. Et sur ce site web, oui, il se trouve une base de données. Et pour cet été, nous avons à peu près 2300 projets dans 70 pays qui sont disponibles. Et on essaie vraiment que ça soit accessible à tous. Donc pour parler un peu argent, pour donner une idée, si vous voulez partir un an au Japon comme volontaire, ça va vous coûter 250€ plus le billet d'avion, ce qui est relativement bon marché.
Mmh. Ouais, c'est vrai que ça doit rester du volontariat. Du volontariat, a priori, c'est pas mettre de sa poche pour...
Oui, enfin, mais là aussi, je pense qu'il faut aussi peut-être un peu casser certaines idées. Donc, pour la plupart des projets de volontariat dans les pays développés, c'est vrai que le volontaire n'a pas à payer de frais de participation, parce que beaucoup d'associations par ici trouvent relativement facilement des subsides de l'État ou de mécènes. Par contre, par exemple, dans notre cas au Vietnam, on n'a absolument pas de subsides de l'État. Je dirais même c'est l'inverse, puisqu'on la police est corrompue, on doit dépenser l'équivalent d'un salaire par mois pour le policier du coin qui vient nous harceler en permanence. Donc là, on demande 200€ par mois de frais de participation. Alors c'est à peu près un tiers pour le logement et la nourriture, un tiers pour le projet et un tiers pour l'association. Parce que faire un projet social, par exemple s'occuper d'enfants des rues, bien, oui c'est du volontariat, mais ça coûte aussi de l'argent. On a un loyer à payer par exemple pour cette maison de jeunes, l'électricité, l'eau, la nourriture. Tout ça, c'est pas parce qu'on fait du volontariat qu'on reçoit l'électricité gratuitement.
Bien sûr, on reste quand même très 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 loin des 700 à 1500 euros de tout ce qui est tourisme humanitaire, évidemment.
On aimerait juste...
Mais c'est peut-être un peu aussi peut-être notre problème, parce que beaucoup de personnes qui partent dans des projets de volontariat internationaux, ce sont des jeunes, et quelque part c'est un peu leurs parents qui subventionnent une grande partie de leur projet, et ces parents se disent, ouais, voilà, si ça a coûté 2000 euros, ça doit être forcément mieux qu'un projet qui en coûte 150. Mais alors qu'ils vont peut-être arriver au même endroit.
Donc ça rejoignait en fait ce que je voulais dire juste avant, c'est peut-être donner un ou deux conseils aux volontaires qui sont prêts à partir, c'est justement de ne pas se laisser séduire par le prix qui peut être tout à fait flatteur, même si on a l'impression de débourser énormément, on se dit ah, c'est bon, je serai en sécurité. Et deuxième chose, ne pas se laisser impressionner par tout le côté marketing et communication qu'il y a derrière ça. Ce sont des entreprises qui ont énormément de moyens et donc beaucoup de salariés qui peuvent se permettre de faire des sites web très impressionnants et tout ce qui s'ensuit, des sens d'information assez impressionnantes aussi, donc pas se laisser flatter par ça, quoi.
Alors peut-être, pardon.
Oui, je pense que pour les auditeurs qui souhaiteraient faire du volontariat, je pense qu'un premier critère de sélection, s'ils veulent faire du volontariat, pratiquer une forme de solidarité, c'est d'aller vers le secteur associatif. Mélanger commerce et solidarité, c'est de l'arnaque.
Mmh. Peut-être un conseil, est-ce que vous avez, par exemple, évidemment, une société qui va faire du tourisme humanitaire aura certainement beaucoup moins de transparence sur qu'est-ce qu'ils deviennent ces 700 à 1500 euros, comment est-ce qu'ils sont répartis, etc. Est-ce que c'est un bon critère de sélection aussi, la transparence?
Oui, mais c'est assez amusant, parce que si vous allez sur les sites de ces sociétés, presque systématiquement, ils se sentent obligés de parler de pourquoi faut-il payer autant pour faire du volontariat. Ils ont toujours mais pourquoi faut-il payer pour être volontaire? Et puis on vous explique avec des superbes schémas très scientifiques que 90% de votre argent vont dans les pays du tiers-monde, quoi. Alors ce qui est amusant, c'est par exemple d'aller voir des sites d'agences de tourisme humanitaire, par exemple américains, où on vous offre par exemple de faire du volontariat en Italie, sauvons les petits Italiens. Et certains de ces projets coûtent 2000 euros. Mais quand on connaît le salaire moyen en Europe, on se dit, mais un jeune de 18 ans, donc un Américain plein d'idéal, va aller sauver un Italien et il va dépenser 2000 euros. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour justifier une dépense de 2000 euros sur place?
Mmh. Soit disant aussi qu'il y a beaucoup d'argent qui vont aux associations qui accueillent, ce qui est totalement faux. À savoir, je ne sais plus exactement quel était le pourcentage que tu avais en tête, Pierre, mais il me semble que sur 2-3 000 euros d'inscription, c'était encore bien s'il y avait 100 euros pour l'association, quoi.
Mmh. Ce qui est un moyen simple, quelque part, ou légal pour les potentiels volontaires de s'assurer justement de la distribution ou de la répartition de ce qu'ils vont payer finalement.
Les ASBL sont obligés de publier leur compte. Les SPRL, les sociétés commerciales le sont moins, je crois en tout cas. Mais je pense que simplement, rien qu'en voyant le statut de la structure, si c'est commercial ou associatif, je pense qu'on peut déjà avoir une bonne idée de là où va l'argent, quoi. Une société commerciale, l'objectif d'une société commerciale, c'est que son propriétaire touche de l'argent. Mmh. Et s'il y a des actionnaires ou un groupe de propriétaires, leur objectif, c'est que ça rapporte le plus possible.
Par définition, finalement.
Oui.
Alors qu'effectivement, une ASBL, ben, comme son nom l'indique, il n'y a pas de but lucratif.
Et le fait... oui.
Derrière, c'est bien ça.
Oui, il y a ça. Mais le fait que ça soit cher, c'est pas le seul problème. C'est aussi, il y a un conflit d'intérêts. Donc, par exemple, un projet de développement, l'objectif, c'est que le plus rapidement possible, le projet s'arrête et que, par exemple, si on donne des cours aux enfants, que le plus rapidement possible, ils puissent retourner dans l'école publique, par exemple. Mais si on met ça dans un cadre commercial, si tous les enfants partent à l'école publique, c'est fini, quoi. On a perdu la poule aux œufs d'or, quoi. Et qu'est-ce qu'on, un projet de développement, on le choisit parce que il est utile à la société. Un projet commercial, on le choisit parce que ça va attirer les clients.
Tout à fait.
Ils font des pays du tiers-monde en fait une espèce d'attraction touristique énorme, et il faut entretenir quelque part la misère dans laquelle tous ces pauvres petites personnes qui vivent au tiers-monde vivent. Il faut absolument entretenir ça d'après eux. Pourquoi ? Parce que sans quoi il n'y a plus de fonds de commerce. Quoi. Donc ils ne trouvent aucun intérêt à faire des projets constructifs en fait.
Parce que justement, c'est finalement c'est l'opposé. C'est quand on n'aura plus besoin d'envoyer de faire de l'aide au développement qu'il y aura plus, enfin que le développement sera vraiment en marche.
Et puis il faut aussi voir les valeurs qui sont propagées par ce tourisme humanitaire, même si en somme ils s'en fichent des valeurs qui propagent, quoi. Par exemple, vous pouvez aller au Cambodge jouer au médecin. Donc il y a une société française qui vous propose de tester votre projet professionnel au Cambodge. Donc vous pouvez aller jouer au petit médecin, soit vous êtes étudiant en médecine, vous pouvez aller faire un stage au Cambodge, mais en dehors de toute convention universitaire, ou même vous êtes lycéen, vous dites tiens, je ferais bien médecine, pourquoi pas aller voir à quoi ça ressemble, tester mon projet professionnel au Cambodge. Mais quelle image on donne, par exemple, de ces médecins cambodgiens, quoi. Les médecins cambodgiens, ce sont des scientifiques qui ont été à l'université, qui ont passé pas mal de temps à étudier la médecine, quoi. Ce ne sont pas des sorciers qui dansent autour de leurs malades. Quelle image on donne du pays du tiers-monde ? Faire croire à un jeune de 18 ans qui va vraiment pouvoir aller faire quelque chose dans un hôpital, sans aucune formation ? Je crois qu'il y a des questions à se poser quand même.
Effectivement. Donc, je rappelle l'adresse de votre site internet, www.servicevolontaire, donc en un mot, en attaché, .org. Donc, toutes les infos là-dessus, où vous contacter, comment participer peut-être, etc. etc. Peut-être le mot de la conclusion, parce que l'heure malheureusement avance.
Peut-être une dernière chose, donc on serait ravis d'offrir une inscription à l'un de vos volontaires, donc il suffit de vous téléphoner.
Donc je vais en fait envoyer, vous pouvez envoyer un email donc à l'adresse ufm@life.com.
Voilà, et donc si l'un de vos éditeurs a envie de tester un projet de volontariat, nous offrons donc les frais d'inscription.
Bien, merci beaucoup pour nos auditeurs, en tout cas. Peut-être rapidement pour conclure, alors, le mot de la conclusion, le mot...
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on a donc une adresse mail d'information, c'est info@servicevolontaire.org. Nous sommes installés à Watermael-Boisfort, où nous nous ferons un plaisir de vous accueillir pour...
Et on peut aussi vous rencontrer à tourner de temps en temps.
Je présume les infos sont
aussi sur le site.
Donc rappelons-le une dernière fois, www.servicevolontaire.org. Eh bien, merci beaucoup, Pierre et Rémi.
Avec plaisir.
Ouais, j'ai retenu, je disais tout à l'heure, j'ai des gros problèmes pour retenir les prénoms, mais voilà, je me suis surpassé aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne chance, bon courage. Face à des gros commerciaux, je présume que ce n'est pas toujours facile.
Mais on va y arriver.
On compte sur vous. Merci beaucoup en tout cas pour avoir répondu à nos quelques questions. Et voilà, donc encore une fois, www.servicevolontaire.org.